Nous vous présentons dans la série d'écran radiophonique un scénario original de Jean-Pierre Junière. Les conspirateurs. Mise en scène, production de Jean-Pierre Junière. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Chaque fois que le téléphone sonne, c'est toujours la belle-mère qui répond.
Allô ?
Oui, c'est pour vous, Fernande. Elle se prépare pour sortir un peu. Elle la trouve dans le couloir.
Vous sortez ?
Oui, un peu prendre l'air.
C'est bien.
Émile parle toujours gentiment à sa mère et aux petits soins avec elle. Je sors.
Vous n'avez besoin de rien, maman ?
Non.
Elle le regarde toujours d'un air mauvais qui l'accuse. Il se sent coupable de la mort de son père.
Un soir, il embrasse sa mère avant d'entrer dans sa chambre. Bonne nuit, maman.
C'est ça. Tu es satisfait. Tu as tué ton père et tu hérites. Bientôt, tu me feras mourir.
Cette fois, sa mère est allée trop loin. Il se sent moins coupable, mais victime d'une injustice. Et se souvient de tous ces gens qui ont conspiré pour qu'il devienne ce qu'il est. Et se dit, en un éclair, qu'on s'est trompé de victime, que la vraie victime, c'est lui. Il est entré dans sa chambre avec soulagement. Depuis ce jour, il est énervé des sarcasmes de sa mère et s'aperçoit que sa femme est aussi sa victime. Il s'en apitoie, et cela le fait réfléchir sur lui et sa femme et se dit qu'elle aussi a été une victime, qu'on l'a forcée à se marier avec un homme qui ne pouvait pas l'aimer et qu'elle s'est mise à l'aimer. Cette souffrance, elle souffre elle aussi. Elle a été et est la victime de leur conspiration, comme lui. Il se met à avoir de l'affection pour elle. Elle doit beaucoup souffrir de cette vie, la pauvre. Elle aussi a sa vie gâchée par leurs fautes et aussi la mienne. Le temps passe. De temps en temps, il va revoir ses deux amis en disant qu'il a une course à faire pour son travail. Avec sa femme, cela va mieux, mais là aussi, il s'applique pour la satisfaire. Qu'il est rentré chez lui, sa femme le prend par la main et le mène à leur chambre. Il ne comprend pas, elle semble tout excitée. Elle le fait asseoir sur le rebord du lit. Elle lui dit, j'ai une grande nouvelle à te dire. Je suis enceinte de 2 mois. Cette nouvelle le surprend, t'y attendais pas. Tu en es sûr? Oui, j'ai vu le médecin cet après-midi. Il sourit et lui dit, je crois qu'il faut te féliciter ou quelque chose un peu comme ça. Tu es heureux? Je ne sais pas vraiment. Oui, certainement. Mais je n'aurais jamais cru. Pourtant, c'est naturel, nous sommes mariés. Oui, il lui embrasse les mains et la regarde. Ça ne se voit pas beaucoup. C'est un peu tôt. Il lui dit, ce sera un beau garçon. Peut-être, oui. Il lui demande, si c'est un garçon, nous l'appellerons comment? Elle lui dit, je ne sais pas. Il dit, Pierre. Il demande, mère le sait? Non, pas encore. Gardons la nouvelle pour nous. « voilà Émile futur père. Après la surprise, il se met à rêver et veut que son fils ait une vie meilleure que la sienne. J'aimerais qu'il puisse faire ce qu'il veut plus tard. Le temps passe. Il faut bien prévenir la grand-mère ou future grand-mère avant que cela ne se voie trop. Et un soir, au salon, ils se sont pris la main tous les deux et lui ont dit, elle leur dit, « Je m'en doutais qu'il se passait quelque chose. J'attendais que l'on vienne me parler. Vous serez bien contente de m'avoir pour éduquer ce petit. » Émile lui dit, « Nous n'avons jamais pensé à cela. Nous l'éduquerons nous-mêmes. Mon pauvre petit, tu n'as même pas fini ton éducation. Et avec toutes les folies que tu as faites, comment peux-tu vouloir donner l'exemple à un enfant ?»« Mais mère, je m'en chargerai, va. » Fernande lui dit, « Je suis la mère, j'ai mon mot à dire. »« Bien sûr, ma petite, vous l'allaiterez et le changerez. » Fernande est furieux. Émile se dit qu'il fera tout pour que l'enfant soit heureux et n'ait pas la même éducation que lui. Le temps passe. La mère d'Émile et sa femme tricotent pour le bébé. On sait maintenant que ce sera un garçon. Émile joue au mari affectueux. Et un jour, Fernande est obligée d'aller à la clinique et c'est Émile qui l'a mené lui-même en voiture. Un jour plus tard, un fils est né, Pierre. La naissance a eu lieu alors qu'Émile était absent de la clinique pour faire quelques signatures. De toute façon, il n'avait pas accepté d'assister à l'accouchement. Cette nouveauté stupide qui veut que le père assiste à l'accouchement. Voir la mère dans tous ses états. Quelquefois, le père encombre et gêne. La naissance n'est pas une chose drôle et n'a rien d'esthétique ou d'émouvant. C'est quelque chose de dur, douloureux et aussi répugnant. Il a appris par téléphone que son fils était né. La nouvelle ne l'a pas surpris puisqu'il attendait depuis de nombreux mois. Il s'est dépêché d'aller à l'hôpital, ne pas oublier les fleurs et amener aussi le champagne. Mais faire la fête dans une chambre où la maman et le bébé sont épuisés est un manque de tact. Ils ont besoin tous deux de tranquillité. Les visites les fatiguent. Que la famille le comprenne et évite d'accourir à la clinique. Ils auront bien le temps de voir l'enfant et la maman plus tard. Ah, ces familles avec leurs coutumes idiotes. Émile arrive en courant avec un bouquet et frappe à la porte de la chambre. Lui ouvre sa belle-maman. Il y a aussi beau papa et sa mère. Ils ont amené champagne et biscuits à cuiller. Tous disent « Ah, oh, voilà le papa !» Il n'a pas le temps de s'avancer vers sa femme pour lui donner le bouquet que son beau-papa lui flanque une coupe de champagne dans la main. Il s'avance vers Fernande, qui est allongée, pâle, très lasse. Il lui sourit, se penche et l'embrasse. Sent qu'elle sent l'eau de Cologne et le savon. Il lui demande « Ça va ?»
Oui, ça n'était pas trop dur. Si, puisque je le pensais. Les accouchements sans douleur, ça n'existe pas.
Il dépose les bouquets sur la table de nuit. Elle lui dit,
merci.
Sa mère prend les fleurs pour les mettre dans un vase. Elle en cherche un dans la chambre. Il n'y en a pas. Alors elle sort en chercher un. Et sûrement déranger une infirmière ou une aide-soignante pour son vase. Quelle stupidité aussi d'amener des fleurs à un malade. Qu'est-ce que vous voulez qu'il en fasse? Ça encombre et il faut changer l'eau. Comme l'on peut pas sortir du lit, alors il faut déranger les personnes de l'hôpital ou de la clinique. Les fleurs, ils ont bien autre chose à faire.
Émile a pris la main de sa femme.
Sa belle-mère lui met sous les yeux un gros paquet de couverture où se trouve le petit nouveau-né. Elle le lui plaque contre lui. Il le prend en tremblant. Elle lui dit
« Faites attention, c'est fragile !»
Il voit une petite tête toute rouge, ratatinée, qui semble ressembler à un être humain. Elle lui dit
« Il est beau, n'est-ce pas? C'est le portrait tout traché de son grand-père. »
Émile regarde bien le nouveau-né et son beau-père, qui semble heureux de ce que vient dire sa femme.
Émile a beau voir, il ne voit aucune ressemblance.
Quelle horreur, ces histoires de ressemblance! L'on vient à peine de naître et ça vous tombe dessus. Il faut absolument qu'on ressemble à quelqu'un.
Petite chose, toute ridée, sans forme, ressemble à qui vous voulez. Toute la famille, la belle famille, y passe.
Le pauvre, à peine qu'il est né, qui ressemble déjà à un vieillard, si ce n'est pas à un ancêtre mort.
Émile ne sait que penser, il sourit. Il n'est ni ému, ni rien du tout. Il ne sait que faire. Et que faire? Que dire au milieu de ces gens qui vous regardent, qui vous cherchent à voir votre réaction avec cette petite chose dans vos bras?
En plus, on vous photographie, ou même filme, pour garder à la postérité sa gêne.
Pendant ce temps, la mère dans son lit fatigue. Mais elle n'ose rien dire, alors elle se force à sourire.
La belle-mère enlève le bébé au père. Ouf! Il ne savait pas quoi en faire.
Alors, on repasse ses gâteaux, champagne.
La mère et la belle-mère parlent de leur accouchement.
La mère et la belle-mère parlent de leur accouchement. Le temps passe. Émile ne sait que faire. Il vaudrait mieux, c'est d'interdire les visites aux jeunes accouchés, sauf pour le père. Car une naissance, c'est avant tout une affaire de couple. La rencontre entre le père, son enfant et sa femme se ferait mieux. Il n'y aurait pas la gêne, moins de fatigue, et le père pourrait mieux faire connaissance avec son enfant. Enfin, il songe à s'en aller, embrassade, félicitations. Il laisse sur le lit, paquet de biscuits, sur la table de nuit, bouteille vide et verre de champagne. La belle-mère dit à son gendre, « Venez avec nous, il faut la laisser se reposer maintenant. » Non, je reste encore un peu. Comme vous voudrez. Les maris sont égoïstes. Et voilà enfin seul. Amy va revoir son petit dans le landau. Lui touche ses petites mains. Il est tout petit. Je n'aurais pas cru, Fernand lui dit. Tu es content? Oui, très. Il sera à nous deux. Il retourne vers sa femme, l'embrasse sur le front. Ça va? Oui, je suis un peu fatigué. Je vais te laisser. Il l'embrasse encore une fois, se relève et lui dit « À demain » et quitte la chambre. Dehors, il fait nuit. Il marche en disant qu'il est père. Vraiment père. Ça lui paraît bizarre qu'il soit père. Dieu que la vie est étrange. Ou qui c'est le contraire d'un père, je suis père. Peut-être est-ce un signe que ma vie va changer. Je ne saurais jamais comme avant. Pourtant je ne sens rien. Quelque chose est parti de moi pour créer un autre être. C'est simple, peut-être trop simple, si simple qu'on ne rend pas compte de la gravité de la chose. La vie, la mort sont les deux choses les plus importantes qui soient, et elles sont liées. Quand on donne la vie, on donne la mort en même temps. C'est pour cela que c'est l'acte le plus important, mais qui se fait d'une façon tellement insignifiante que ça fait croire à quelque chose d'artificiel. Il sourit et se dit que la naissance de son fils lui donne des pensées bien sérieuses. Et peut-être être père, sérieux, que lui sera un père comme les autres? Non, sûrement pas, car on n'est pas comme les autres. Sa mère, toujours en robe de deuil et l'air aussi dur, et lui dit « Va te laver les mains,
et bien mangé.
Il se dit que pour elle est toujours un enfant. Un enfant qui pour elle est fait pour être surveillé et éduqué. Au potage, elle lui dit :
Tu as la peur maintenant. La vie va être sérieuse. Tu vas peut-être enfin comprendre comment ton père a pu souffrir à cause de toi. Avoir une forte tête comme fils, ce n'est pas facile. Émile pose sa cuillère fortement sur la table.
Elle lui dit : N'exagérez pas.
J'ai pas été un mauvais fils. J'ai toujours fait ce que vous m'avez dit de faire. Vous avez voulu que je poursuive mes études dans la chimie. Malgré que je souhaitais autre chose, j'ai accepté. J'ai pris la place de père dans l'entreprise alors que je rêvais d'autre chose. Je me suis marié avec la personne que vous aviez choisie. Pour que je sois un fils obéissant, que voulez-vous que je fasse de plus?
Tu ne peux pas nous reprocher tout ça. C'est pour ton bien qu'on l'a fait. Et si tu as une bonne situation, c'est grâce à nous et une famille aussi.
Je le sais.
J'ai obéi, c'est ce que vous vouliez, non?
Il se lève.
Pose sa serviette sur la table. Bonne nuit. Et il sort de la salle à manger. Il entend derrière lui sa mère lui dire
« Forte tête, toujours forte tête !»
La nuit, dans son lit, il touche sa croix et pense « Est-ce que Patrick, qui est en moi, serait content que j'ai un fils ? Peut-être l'en veut-il ? Il croit peut-être que je l'ai trahi. Pourtant non, ne crois pas cela, Patrick. Je t'aime toujours et pense. Personne ne prendra ta place. Mon fils, c'est autre chose, un autre amour. Un amour qui devra lui aussi porter en lui notre amour. Je l'éduquerai pour cela. Je dirai notre histoire. Il sera celui qui devra continuer la chaîne pour qu'elle ne meure pas. Je vais écrire cela à la fin de mon histoire, Patrick, sur mon cahier, pour qu'il sache et n'oublie pas. Et il s'endort, tranquille.
Le lendemain matin, la première des choses qu'il fait en se levant, c'est d'ouvrir à la première page de son cahier et d'écrire pour que son fils garde son amour. Après son travail, il est allé voir sa femme. Elle a toujours des visites, amis, famille. Émile en a assez. Il aimerait pouvoir voir son fils tranquillement et parler à sa femme. Les gens sont insupportables.
Thank you.
allé annoncer la nouvelle à ses amis, Gérard et Jérôme. Il a senti un peu de dépit chez Gérard, une petite jalousie. Pour lui prouver qu'il n'a rien à craindre, qu'il l'aime toujours, ils sont allés faire l'amour dans la cave. C'est Émile qui lui a demandé. Jérôme, lui, a été plus content. Il l'a invité au restaurant.
Tu veux, moi, j'y renonce.
Il lui a dit.
Ça sert à rien.
Ça va, me fait plaisir. Tu verras. Ça va te stabiliser. Tu viendras plus homme.
J'ai l'impression que le temps passe.
Je suis content pour toi. Tu seras plus sûr de toi. Puis un fils, c'est l'ami. Tout va changer pour toi.
C'est bizarre, c'est quand on a mal dormi qu'on a l'air le plus reposé.
Pour le moment, je ne sais pas.
Non, c'est pas que j'ai mal dormi, c'est
j'ai autant
que...
envie de voir Gérard, de faire l'amour avec lui.
Devine qui est venu.
J'aime toujours Patrick. Oh. J'ai un amour de plus, c'est tout.
Un sandwich au gruyère pour moi.
Et oui, tu as raison.
Une salade.
On ne change pas ses goûts. Et beaucoup d'hommes mariés, et même avec enfants comme toi, c'est pareil. C'est dans leur nature.
On peut avoir de café, s'il vous plaît.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les Conspirateurs. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.